Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'empathie. C'est la capacité de comprendre, de ressentir les sentiments de l'autre. C'est être capable de se mettre à sa place. On pense souvent que l'empathie est quelque chose de purement positif, mais les choses sont plus compliquées en réalité. En parlant de choses compliquées, ça a été difficile de finir cet épisode. Le problème, c'était pas le sujet en lui-même. Il y a plein d'idées à développer autour de l'empathie. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé rapidement dans un épisode précédent. Mais l'épisode de cette semaine est un peu particulier parce que c'est le dernier épisode de Passerelle que j'enregistre à Taïwan. Si tout se passe bien, la prochaine fois que je vous parlerai, je serai en France. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un peu de mal à être concentrée sur le travail ces derniers jours. Mais bon, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a quelques mois, je vous expliquais que l'empathie nourrit nos relations. C'est la capacité de voir une situation sous le même angle qu'une autre personne. Faire preuve d'empathie, c'est accompagner l'autre, éprouver des sentiments avec d'autres personnes. Je vous disais aussi que l'empathie est étroitement liée à l'écoute. Cette semaine, j'ai eu envie d'explorer ce sujet un peu plus en détail avec vous. On va partir d'une question très large. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Et comment ça fonctionne? D'abord, on va définir l'empathie. Ça va être l'occasion de mieux comprendre ce qu'elle nous apporte. Dans cette partie, on va aussi se demander si l'empathie est quelque chose qui s'apprend. Ensuite, on va s'intéresser au piège de l'empathie. En effet, ça peut parfois être compliqué de gérer cette capacité. Et pour finir, on va dire quelques mots sur la compassion, un sentiment qu'il ne faut pas confondre avec l'empathie. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Quand je vous parle d'empathie, à quoi ça vous fait penser? Dans les cours avec mes élèves, j'aime bien poser ce type de questions pour encourager la réflexion. De mon côté, j'avais une image purement positive de l'empathie. Du coup, quand j'ai commencé à faire des recherches, c'était un peu déstabilisant d'écouter des opinions plus critiques sur cette capacité. Quand je dis que c'était un peu déstabilisant, ça veut dire que c'était perturbant, troublant. Bref, ça remet en question mes idées. Pour essayer d'y voir plus clair, on peut se demander ce que ça signifie, avoir de l'empathie. C'est presque impossible de se mettre à la place de quelqu'un. L'empathie, c'est le fait de ressentir une émotion qui est appropriée face à l'émotion d'une autre personne. Ça nécessite plusieurs choses. Il faut pouvoir comprendre l'état d'esprit de l'autre, comprendre son ressenti. Son ressenti, c'est la manière dont il ou elle perçoit les choses. Et il faut avoir une réponse appropriée. Par exemple, si je rencontre une personne heureuse et que moi aussi je me sens heureuse, c'est de l'empathie. Je comprends l'émotion de l'autre, je ressens la même émotion. La source de mon ressenti, c'est l'autre personne. Pour aller plus dans le détail, il y a deux éléments dans l'empathie. Il y a un élément émotionnel et un élément cognitif. L'empathie émotionnelle, c'est quelque chose qui apparaît chez les enfants vers l'âge de 1 an. C'est la capacité à identifier l'émotion chez son interlocuteur. C'est ressentir l'émotion de l'autre en miroir. Par exemple, quand quelqu'un pleure, je pleure aussi et je suis consciente que c'est cette personne qui m'a transmis cette émotion. L'empathie cognitive fait appel au raisonnement. Dans ce contexte, faire appel à quelque chose, c'est un peu comme demander. Ça demande du raisonnement, de la pensée logique. L'empathie cognitive apparaît chez les enfants vers l'âge de 4 ans et demi. C'est pouvoir comprendre qu'une autre personne peut avoir une représentation du monde différente parce qu'elle a des expériences différentes. L'empathie cognitive, c'est donc être capable de se mettre à la place de la personne, de comprendre pourquoi elle est heureuse ou pourquoi elle pleure. En plus de l'empathie émotionnelle et de l'empathie cognitive, il y a une troisième composante à ne pas oublier. C'est la capacité à faire la synthèse entre ces deux éléments. C'est vraiment à partir de l'âge de 8 ans que les enfants ont la capacité de faire le lien entre les deux. C'est en faisant ce lien qu'ils peuvent se mettre émotionnellement à la place de l'autre. En clair, si je vois quelqu'un souffrir, je perçois, je ressens sa souffrance, je comprends aussi les causes de cette émotion, mais surtout, je peux me mettre émotionnellement à sa place, je souffre avec cette personne. Tout ça pour dire que ce lien est indispensable pour entrer en empathie avec quelqu'un. On peut comprendre que la personne souffre grâce à l'empathie émotionnelle, on peut comprendre pourquoi avec l'empathie cognitive, mais sans faire le lien, on peut prendre une direction différente. On peut choisir de sortir le plus vite possible de cette situation si on ne veut pas être soi-même bouleversé par cette émotion. Certaines personnes peuvent même utiliser l'empathie pour manipuler les autres. Mais on va revenir sur ce point dans la deuxième partie. Je trouve que c'était important de commencer avec cette définition parce que l'empathie, c'est un terme un peu fourre-tout. Dans fourre-tout, vous entendez le verbe fourrer. Un mot fourre-tout, c'est un mot dont la signification est un peu floue, avec plusieurs sens. On entend dire plein de choses au sujet de l'empathie. Par exemple, dans un discours de 2006, le président américain Barack Obama disait « Je pense que nous devrions parler davantage de notre déficit d'empathie ». La capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ceux qui sont différents de nous. Aujourd'hui, l'empathie est souvent présentée comme une valeur importante, une valeur qu'il faut développer. Avoir de l'empathie, c'est très valorisé en général. Et au contraire, manquer d'empathie peut être mal vu. Il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée dans cet épisode. Est-ce que l'empathie est quelque chose d'inné ou d'acquis? Est-ce qu'on a cette capacité dès la naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? D'après ce que j'ai lu, je ne sais pas s'il y a une réponse définitive. J'ai l'impression que les débats continuent autour de cette question. Certains scientifiques pensent que l'empathie est partiellement innée. Je pense à l'exemple d'une étude faite sur des frères et sœurs, plus précisément sur des jumeaux et des jumelles. Dans cette étude, les scientifiques ont observé que l'empathie émotionnelle est probablement transmise par les parents biologiques. Cette caractéristique serait présente dans notre ADN. En revanche, l'empathie cognitive serait plutôt influencée par l'environnement familial et culturel dans lequel on a grandi. En résumé, on peut apprendre à comprendre les émotions des autres, à avoir une réponse adaptée, mais c'est plus difficile d'apprendre à ressentir les émotions des autres si on n'a pas cette faculté naturelle. En tout cas, la recherche continue sur ces questions. Si l'empathie est quelque chose qui s'apprend, et personnellement je pense que oui, c'est quelque chose qui se développe, si l'empathie s'apprend, ça peut aussi nous faire réfléchir à d'autres idées. Souvent, on entend dire que les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Il faudrait se demander pourquoi et d'où vient cette idée. Est-ce que c'est parce que les femmes expriment leur empathie plus facilement? Ou parce qu'on apprend aux hommes qu'il ne faut pas exprimer ses émotions? C'est difficile à dire. Et puis, j'ai pas envie de tomber dans des généralités. C'est intéressant de réfléchir au rôle de la culture dans tout ça. Même si ça reste compliqué de savoir exactement ce qui est influencé par notre ADN ou par notre culture. À côté de ça, je me suis aussi demandé pourquoi j'ai l'impression d'être plus empathique avec certaines personnes qu'avec d'autres. En fait, l'empathie n'est pas un phénomène automatique. Il est influencé par la distance sociale entre deux personnes. La distance sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se sentir plus ou moins proche de quelqu'un. Plus je me sens proche d'une personne, plus je vais facilement ressentir de l'empathie pour elle. Être proche, ça veut dire plusieurs choses dans ce contexte. Je me sens proche d'une personne si je la connais déjà, ou si elle me ressemble. Autrement dit, si je peux m'identifier à elle. Pour revenir à l'apprentissage de l'empathie, c'est d'abord dans la famille que cette capacité peut se développer. L'école a également un rôle à jouer dans cette éducation. À l'école, les enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter l'autre, à se comprendre. Dans un podcast que j'ai écouté, l'invité utilise une phrase que j'aime beaucoup. Pour pouvoir se comprendre, il faut être capable de se projeter dans le paysage intérieur de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, comprendre ses émotions, c'est comme ça que fonctionne l'empathie. De prime abord, l'empathie c'est super, c'est très valorisé, elle a bonne réputation. Alors, une petite précision, de prime abord, ça signifie au premier regard, à la première impression. Je vous l'ai dit au début, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au piège de l'empathie, à ce qui arrive quand on a du mal à gérer cette capacité. Comme moi, vous avez peut-être une vision positive de l'empathie. Et vous vous demandez sûrement comment on peut penser que l'empathie est quelque chose de mauvais. L'empathie n'est pas quelque chose de mauvais en soi, évidemment. C'est une capacité utile pour aider les autres. Cependant, étant donné que c'est une capacité émotionnelle et cognitive, elle est influencée par des biais. Un biais, je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire dans l'épisode sur les décisions. Donc, c'est important de souligner que l'empathie peut avoir des conséquences néfastes sur une personne empathique et sur celles et ceux qui l'entourent. C'est une capacité qu'il faut savoir gérer, un peu comme ses émotions. Pour les personnes les plus empathiques, si elles sont exposées régulièrement aux drames qu'on peut voir dans les médias ou aux difficultés des personnes qui les entourent, tout ça peut devenir une source de stress. Ça peut même se traduire par une souffrance physique ou psychologique. Pour éviter ça, il faut veiller à ne pas trop s'exposer à ces situations. Il faut veiller à garder des temps de repos. Autrement dit, des temps pour récupérer, pour prendre un peu de distance quand c'est nécessaire. Veiller à faire quelque chose, ça signifie s'assurer de quelque chose ou faire attention. Mais c'est pas toujours possible de prendre de la distance. Je pense à l'exemple des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans l'humanitaire. Les infirmiers et les infirmières sont souvent en première ligne face à la souffrance de leurs patients. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas s'identifier à la personne qui souffre. Ça me fait penser à un article que j'ai lu cette semaine. Il parlait de la théorie de l'esprit. C'est la capacité de bien faire la différence entre son propre état d'esprit et celui de la personne en face de soi. Je crois que c'est utile de pouvoir identifier ce que l'autre ressent Et en même temps, je sais que c'est l'autre qui éprouve une émotion négative, pas moi. Éprouver, c'est juste un synonyme du verbe ressentir. Je voudrais revenir sur le concept de biais, sur l'idée que l'empathie est biaisée. Le psychologue Paul Bloom a écrit un livre où il parle de ce sujet. Il nous explique que nous sommes plus enclins à éprouver de l'empathie pour des personnes attirantes. Être enclin à quelque chose ou être enclin à faire quelque chose, c'est avoir une prédisposition naturelle. C'est-à-dire qu'on a naturellement plus d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent, celles qui partagent notre origine ethnique ou nationale. Paul Bloom dit également que l'empathie est étroite. Elle nous relie à des individus réels ou imaginaires, mais elle est insensible aux nombres et aux données statistiques. Un bon exemple de ça, c'est que l'image d'une personne victime de violence crée une émotion plus forte que toutes les statistiques sur le réchauffement climatique. On peut faire la même comparaison entre un attentat qui se passe près de chez soi et une guerre dans un pays lointain. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la distance sociale. Je pourrais aussi appeler ça le problème de la proximité. Moins je me sens proche de quelqu'un, moins je vais avoir de l'empathie pour cette personne. Paul Bloom soulève un autre point pertinent sur les pièges de l'empathie. Il défend l'idée que certains politiques utilisent l'empathie pour manipuler les gens. Le but serait de monter deux types de populations l'une contre l'autre. Monter une personne contre une autre, ça signifie les mettre en opposition. Quand elle est dans de mauvaises mains, l'empathie pourrait ainsi devenir une arme. Avant de passer à la dernière partie, je veux quand même insister sur le fait que la question n'est pas de savoir si l'empathie est quelque chose de positif ou de négatif. C'est un outil qui a ses limites. Il faut apprendre à l'utiliser pour ne pas se blesser et ne pas blesser les autres. Comprendre qu'on fonctionne toutes et tous de manière différente, ça peut nous aider à créer de meilleures relations. S'intéresser à l'autre, à sa manière de voir les choses, c'est ça aussi, avoir de l'empathie. Ce que je retiens de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai écouté cette semaine, c'est que l'empathie n'est ni un défaut, ni un but en soi. C'est un outil. On arrive presque à la fin de l'épisode, mais je voulais quand même vous dire quelques mots sur la compassion, pour finir. Quelle est la relation entre l'empathie et la compassion? Il ne faut pas les confondre. D'un côté, l'empathie est liée à plein d'émotions différentes. La joie, la tristesse, la colère, etc. De l'autre, la compassion est plus spécifiquement liée à la souffrance. Si je devais décrire la compassion, je dirais que c'est un sentiment de bienveillance qui est accompagné d'une envie d'aider la personne qui souffre. C'est une réponse positive qui inclut cette idée très importante, l'idée de faire quelque chose pour soulager l'autre. Concrètement, avoir de la compassion, c'est voir une personne qui souffre. On ne souffre pas forcément avec elle, mais on veut l'aider et on l'entoure de bienveillance. Quand on est dans la compassion, on ressent les émotions négatives de l'autre. On les partage. Donc, dans ce sens, c'est un peu comme l'empathie. Mais avec la compassion, on ajoute une émotion positive, une certaine bienveillance qui sert de protection. Tout à l'heure, je vous parlais des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans le milieu médical, dans l'humanitaire. Pour toutes ces personnes, la compassion permet de rester en contact avec l'autre, de rester en contact avec les émotions de l'autre. Mais elle permet en même temps de se protéger de certaines difficultés de ce métier. Enfin, on ne peut pas ignorer qu'il y a aussi une fatigue de la compassion chez le personnel soignant. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était une réalité bien avant la pandémie. Mais le Covid-19 a certainement exacerbé la situation. Exacerber, c'est rendre quelque chose plus intense. les personnes les plus compatissantes sont aussi celles qui savent mettre des limites. Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans la vie en général. Mettre des limites claires, c'est dire ce qui est acceptable pour soi et ce qui ne l'est pas. Au bout du compte, l'empathie, ce n'est pas ressentir une émotion à la place de l'autre. C'est la ressentir avec l'autre. Mais l'empathie sans limites, ce n'est pas de l'empathie. Les limites ne sont pas une forme de séparation ici. C'est plutôt une question de respect. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et comprendre ses émotions. Je reste convaincue que c'est une qualité qui rend meilleures les relations et qui aide à mieux vivre en société, ensemble et dans le respect. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur la question de l'empathie. Pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage aussi des ressources et les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !